Enfin, on fait les lignes schmat et ma grand-mère a rosine bat ama. Mais rajouter quelqu'un d'autre. Une fois schéma. Malka Sultana Taïta bat même Simcha Florence. Alors, voir un peu le sujet, c'est un peu de manière générale, au niveau historique et conceptuel, qui s'est passé à Hanouka. Alors, sans rentrer tellement dans le détail des mitzvot de la fête, d'abord, il faut analyser un peu c'est quoi le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka qui a provoqué toute cette mitzvah, ce nes, etc. Alors, on commence par le Rambam. Le Rambam, il commence comme ça. Mais Bayit Sheni, deuxième Beit HaMikdash, alors, mais Bayit Sheni, deuxième Beit HaMikdash, chez Malchou Yavan, quand ils ont régné les Grecs, Gazrou Gzerot al Israël, donc ils ont décrété sur Israël, ou Bitlou Datam, ils ont annulé leur date, leur religion. Velohinirku Otam, la Asok, Betorob et Mitzvot, ils n'ont pas laissé s'occuper de la Torah des Mitzvot, ou Pashli Adam et Mamonam, et ils ont envoyé leurs mains dans l'argent, c'est-à-dire qu'ils se sont servis dans l'argent, Mimnotem et dans leurs filles, Venirknesu Lecha, ils sont rentrés dans l'Echa, ou partout Beperatzot, mais Timu Atarot, ils ont impurifié et étaient purs. Etc., etc. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont fait Yavan. Qu'est-ce qu'ils ont fait Yavan? Voilà ce qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant dans cette phrase du Rambam, c'est on comprend ce que ça veut dire, ils n'ont pas laissé faire la Torah de Mitzvot, on comprend ce que ça veut dire, ils sont servis dans leur argent, leur fille, comme l'histoire dit, vous dites, elle a tué le Hagmon, et ils sont rentrés dans le Echal, ils ont fait ils ont cassé, ils ont rendu impur, ça on comprend tout ça. Mais il y a une phrase, on ne comprend pas trop. Bitlou datam, ils ont annulé littéralement leur loi, leur religion. Qu'est-ce que ça veut dire que les Grecs, ils ont annulé la religion des Juifs? Ouais. Qu'est-ce que ça représente concrètement de plus? C'est-à-dire qu'on comprend qu'ils ont péché de faire la Torah, mais ils ont annulé leur religion. Et s'ils ont annulé leur religion, alors comment la religion elle est venue, puisqu'ils ont complètement enlevé? Alors, pourquoi, quand ils ont été mvatel, il n'y a plus, ils ont annulé complètement le date. Alors, comment ça revient après? Qu'est-ce que ça veut dire? Prends pas cette phrase du Rambam. Qu'est-ce que ça représente? Commencez par ça. Alors, faut comprendre, qu'est-ce que les Grecs, et c'est la première chose qu'ils ont, ils ont fait des xérotes, et c'est quoi les xérotes? Ils ont annulé leur date. Qu'est-ce qui nous reste d'après? S'ils ont annulé la religion, alors qu'est-ce qui nous reste à nous? Qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a perdu? On dirait qu'on a perdu quelque chose de très fondamental à l'époque des Grecs. Alors, historiquement parlant, regardez, une braïta qui s'appelle Seder Olam. Seder Olam, c'est un Tana qui s'appelle Rabbi Yossi Ben Tralafta. Et il a écrit l'histoire du monde. C'est ce qu'on fait comme des braïtot, c'est ramené dans la Gemara, c'est ramené dans Rashi souvent, c'est Seder Olam. C'est une braïtot très chachoua. C'est un livre qui s'appelle comme ça, c'est Seder Olam. Et là-bas, c'est marqué, à la fin de la phrase qu'il y a dans le Maran Mekomot, c'est marqué, Atkan ayu anevi mitnami biruach hakodesh, mikan ve'elar, pardon, ou Alexander, donc il ramène un passage dans Daniel, et on dit, ou Alexandre ou Mogdon, donc le roi dont on parle, c'est ce qui est dans Daniel, c'est Alexandre Mogdon, ce qu'on a dit aujourd'hui en français, Alexandre le Grand, qui a régné pendant 12 ans. D'accord, son règne a été très court, vous savez, Alexandre le Grand, il est mort très très jeune, Alexandre, à 33 ans, 37 ans. Il a conquis le monde entier pendant ce temps-là. Et Atkan, jusqu'à là, a Yohanevi, Mitnamim, Beruach HaKodesh, prophète, prophétisé avec l'Esprit Saint. Mikan, Vélach, à partir de là, Hat, Oznecha, tends l'oreille, Ushmar, divrei Chachamim, et écoute les paroles des Chachamim. Donc, il y a une différence entre avant Alexandre le Grand et après Alexandre le Grand. Quand Alexandre il a régné, c'était le dernier prophète était encore en vie, et la prophétie, elle s'est arrêtée. À partir d'Alexandre, Atosnecha, tends l'oreille, Ushma Advaré Chachamim, et écoute les paroles des Chachamim. On passe de la Névoie à la Chokhma, en Alexandre, les Grecs. Les Grecs, ils ont fait passer le peuple juif de la Névoie à la Chokhma. Pourquoi dans la Chokhma, on dit Hat Osnecha Advaré, tends l'oreille pour écouter les paroles des Chachamim? Parce que la Névoie, c'est une parole qui vient directement d'Akadosh Baroukh Hou. D'accord? Il n'y a pas besoin d'écouter, il n'y a pas besoin de vouloir recevoir la névoie. La névoie, ça s'impose d'Akadosh Baroukh Hou. C'est une parole qui vient de haut, du en haut et qui s'impose à l'homme. Le Navi, quand il parle, quand on voyait un Navi, ça bouleversait quelqu'un. C'est quelque chose de transcendant chez le Navi. Il est connecté avec Akadosh Baroukh Hou. Et la prophétie, c'était une parole, il n'y avait pas besoin d'aller vers la Chokhma, de vouloir écouter. C'était quelque chose qui imprégnait la personne de l'extérieur, parce que c'est une parole qui était divine, pure. Alors que la Chokhma, si quelqu'un il vous parle de Chokhma et vous voulez pas écouter, ça rentrera jamais. On ne peut pas intégrer la Chokhma sans un mouvement de tendre l'oreille, de vouloir écouter, de vouloir comprendre, sinon ça marche pas. Donc il y a une vraie différence entre avant Alexandre Mogdon et après Alexandre Mogdon. Bien comprendre, Alexandre Mogdon, c'est pas Alexandre. Alexandre, son maître, c'était Aristote. Donc, c'est Aristote, c'était l'élève de Platon, et Platon, c'était l'élève de Socrate, le plus grand des philosophes, a priori, à part Aristote. C'était celui qu'on appelle le père de la philosophie, Socrate. Et Aristote, c'était le maître d'Alexandre le Grand. Donc, en fait, Alexandre le Grand, il faut bien comprendre, quand il conquiert le monde entier, c'est la pensée d'Aristote aussi qui conquiert le monde entier. C'est pas qu'une conquête militaire. Il conquiert le monde entier, et évidemment, de la même manière que si, Chas v'Shalom, vous avez les Arabes aujourd'hui qui vont conquérir le monde, ils vont aussi imposer leur charia. Et ben, quand Alexandre le Monde conquiert le monde, il impose évidemment une identité, un style de vie. Donc, en vérité, la philosophie grecque, elle se répand par les conquêtes d'Alexandre le Grand. Cette conquête, elle est double. Elle est physique et métaphysique. Dans le sens, elle est physique et c'est une conquête aussi des esprits. D'ailleurs, il faut bien savoir que la conquête des esprits d'Aristote, elle est encore jusqu'à aujourd'hui. Einstein, il a dit une phrase qui était lue dans un livre d'Einstein. C'est pas prévu dans Paris. Einstein, quand il parle de la révolution de la physique ancienne au passage à la physique moderne, qui commence avec Galilée précisément, là c'est lui qui dit ça, il commence avec Galilée, la réflexion moderne de la physique qui amène aujourd'hui à toutes les découvertes de physique quantique, etc., c'est Galilée qui l'a instauré. Et entre Aristote et Galilée, il y a une obscurité, une pensée qui s'est arrêtée pendant presque 2000 ans. Parce que Aristote, les philosophes, ils avaient telle autorité intellectuelle que personne n'a remis en question ce qu'ils disaient. C'est un exemple bête. Aristote, il dit que quand vous poussez un corps, eh ben, vous exercez une force dans le corps, et ce corps s'arrête quand la force que vous avez exercée, elle s'arrête. Il vient Galilée, il s'appelle avec Newton, après, qui a précisé la loi de l'inertie, mais c'est d'abord Galilée qui l'a dit. C'est que quand vous poussez un corps, eh ben, en fait, le mouvement, il s'arrête jamais, il est infini, c'est de l'inertiel. Et c'est seulement parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer qu'il fait qu'il s'arrête. Mais si rien n'empêche d'avancer, il n'y a pas de frottement, la chose s'arrête jamais. C'est l'inertie qu'on entend. Et en fait, ça, cette façon de réfléchir, c'est Hakirot qui a été inventé par Galilée. C'est nouveau. Personne n'a osé penser l'avant-garde d'Aristote. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie grecque, les Grecs, intellectuellement parlant, ils ont imprégné le monde pendant des centaines, des milliers, jusqu'à aujourd'hui, en vérité, on est dans une culture qui est grecque, c'est une culture de réflexion, de philosophie, de méthodologie, etc. Mais ça, on va voir après encore. Et, d'accord? On voit ça déjà dans le Seder Olam. On voit ça aussi dans le Gaon, qui est là-bas, hein, il explique un pirouche sur le Seder Olam, sur la Braïta Seder Olam. Et il dit comme ça, Bagola, Kotvim, Beshtarot, ça c'est quand tout s'arrête. Quand vous écrivez un contrat de mariage, un contrat d'argent, on date les ktouvot. Alors aujourd'hui, quand on date une ktouva, un contrat, en tout cas si on le fait de la façon juive, on le date depuis la création du monde, comme ça, c'est dans la ktouva. Mais en vérité, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et chez certaines communautés, ça existe encore peut-être, Jérôme Chapir, lui, quand il était jeune, il a vu une ktouva qui était écrite, comme on a toujours fait dans le peuple juif, ce qui n'y a pas tellement longtemps, on écrivait le compte en fonction des Grecs. C'est-à-dire qu'en fait, le début du règne d'Alexandre, c'est lui, là, c'est elle, la date de référence de l'écriture des contrats quand on date quelque chose. À chaque fois qu'on date quelque chose, c'est 100 ans du règne d'Alexandre. C'est ça qui dit Bagola, en fait, la Kotvim, on écrit dans les contrats, les Minyan Yevanim, selon le compte des Grecs, qui est Alexandre, Ratsa le Amit Selam Echal. Pourquoi? Parce qu'Alexandre le Grand, il a voulu mettre une statue de lui dans le Echal. dans le Beth Amikdash, à l'intérieur même. Et Nit Payes, il a été amadoué, Almenach, Irtemu, Shtarot, Lemnian Ivanim, à condition qu'ils écrivent dans les contrats, la datation se fait selon le règne d'Alexandre. Et ça, c'est surprenant. Parce que lui, il veut mettre sa Vodazara dans les râles, et on lui dit, on va te mettre dans tes contrats. Enfin, Alexandre le Grand, vous savez, c'était un genre hors norme, c'était un grand conquérant et un grand philosophe. C'était une personne brillante. Forma Bagoum Tamin, c'est ces gens-là qu'il y a. C'est vraiment des gens très intelligents. Il ne se fait pas avoir par des. S'il te demande quelque chose comme ça et qu'il accepte de transformer ça en datation dans les contrats, c'est qu'il y a quelque chose qui. Il y a une équivalence. Ça veut dire que de mettre une Avodah Zara dans le Echal et de changer la date sur les contrats, il y a une équivalence. Sinon, il n'aurait jamais accepté. Comment il peut accepter une chose pareille? Et alors, regardez, maintenant, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi cette date dans les contrats? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi nous, on lui a proposé ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, il y a Ramnissim Gaon. Ramnissim Gaon, c'était un des derniers Gaonim. Et il a écrit, on a encore des textes à lui. Un des textes qu'on a, c'est l'introduction qu'il a écrite sur le chasse. C'est avant Masred Machot, c'est l'introduction de Ramnissim Gaon. Et là-bas, il écrit, par exemple, il écrit comme ça. Vaïda Yeridato Shel Rav Bebavel. Et donc lui aussi, il compte selon la date grecque, plus la reine grecque, du règne grec. Comme aujourd'hui, les dates civiles françaises. Et selon ce qu'ils appellent l'ère vulgaire, je disais, bon, ça n'a rien à voir avec lui, mais ils appellent ça comme ça. Quand il y a eu, pour vous donner un autre exemple, quand il y a eu la Révolution française, ils ont commencé à compter l'année zéro, à l'époque, ils ont changé l'année zéro. Bon, après, ça s'est arrêté, mais ils avaient même changé le nombre des mois, etc. Il y avait un truc comme ça. Alors, et nous, on compte selon les Grecs. Alors, Yairinato Sherav les Bavel, Mishna Tafkouf Shana, c'était 500 ans, les Pissouk Nevoa, à l'arrêt de la Nevoa, Asheru Trilat Memchelet Alexandre, qui est le début de la domination d'Alexandre, qui Azaita Trilat Malkuta, parce que c'était à ce moment-là. En fait, ce que ça correspond pour nous, à quoi ça correspond pour nous, le compte du début des Grecs, ça correspond à la fin de la Nevoa. C'est-à-dire qu'en vérité, Alexandre le Grand lui a dit, on va compter à partir de là, c'est-à-dire on va compter à partir de la reine de Nevoa, c'est-à-dire on te reconnaît que tu nous as détruit quelque chose. Tu veux mettre une statue dans le Echal, alors on va te reconnaître, à la place de ça, on va te reconnaître que toi, tu as annulé la Nevoa. Les Grecs, ils ont annulé la Nevoa dans le monde. On va essayer de comprendre comment ça marche et comment nous, on est ressorti de ça, c'est on a gagné à Hanouka, les Juifs ont gagné. De la même manière qu'on dit, on a gagné la guerre, évidemment, la guerre physique, mais on a gagné aussi la guerre du concept, la guerre de l'esprit, comme Alexandre de conquête, mais aussi c'était une double victoire. Donc, c'est-à-dire que les Juifs, ils ont reconnu ça. Ils ont reconnu l'arrêt de la Nevoa. Et ça, c'est en vérité, maintenant, on comprend le Rambam. Parce qu'on m'a demandé au début, le Rambam, au tout début des Trois Hanouka, les premières choses qu'il dit, c'est Ubitu, Ubitlu Datam. Ils ont annulé leur date. Il a annulé. Les Grecs ont annulé la religion des Juifs. Enfin, ils ont annulé. Il n'y a plus. Il y a quelque chose qui est parti, qui a été battel et qui ne revient pas, parce que ce qui est battel, il y a un bitou, il y a une disparition de la chose. Alors regardez, j'ai ramené en français, parce que quand c'est en hébreu, après il y a le nom d'Hachem, etc., c'est compliqué. Alors, c'est dans Dvarim 18-15, c'est un prophète, Navi Mikirbecha, Meachecha, Kamoni, un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, que l'Éternel suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter. Donc, il parle que Hachem, il va mettre des prophètes dans le peuple juif. C'est la paracha qui dit qu'Hachem, beaucoup va mettre des prophètes dans le peuple juif et qu'il faut les écouter. Et il ressemble à Moshe Rabbeinu. Absolument, comme tu l'as demandé à l'Éternel. Hacher Sha'alta, Me'im, Kechol Hacher Sha'alta, Me'im Hachem Elokei. Be'achorev, Be'yom Hakahal, Be'achorev, Be'yom Hakahal, le jour de la convocation. Quand tu as dit, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et ce feu intense. Je ne veux plus le voir de peur d'en mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien parlé, étiez-vous à cher Dibérou, je leur susciterai un prophète au milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vassim Devaraï, mes filles, et il leur dira, et quoi la chair à Tsavenou, tout ce que je leur ordonne. Et donc, ça veut dire qu'en vérité, la Nevoa, on l'a demandé. Il faut bien comprendre ça. Ce qui est marqué dans ce passage, c'est que Hachem, il a parlé directement, pas la parole d'Hachem vers les Juifs, c'est-à-dire la Torah. Elle passe pas par un prophète. Elle passe par Akash Bokhu directement. Les deux premières paroles, ils ont entendu de Akash Bokhu lui-même. Et eux, ils ont dit, on n'en peut plus, ça, stop. C'est trop dur. C'est un feu brûlant. On peut pas. Ils sont morts, ils sont ressuscités. Ils n'en pouvaient plus. Ça, c'était trop pour eux. Alors, ils ont demandé, on veut un prophète. Donc, après, c'est passé les 8 dernières paroles par Moshe Rabbeinu. Et tous les prophètes, à partir de là, en vérité, qui transmettent la parole d'Hachem, ça tire sa source de cette histoire-là. Parce qu'ils ont demandé, on veut un prophète. Alors, Hachem, d'accord, à partir de maintenant, je vais vous parler à travers un prophète. Donc, quand j'ai quelque chose à vous dire, je ne vous le dis pas directement, je le donne à un prophète, et le prophète, il vous le dit. En réalité, la prophétie, c'est quoi? C'est la parole d'Hachem qui a commencé au Mamad Har Sinaï, c'est-à-dire le don de la Torah, et qui se continue dans toutes les générations à travers la bouche du prophète. C'est ça le pshat. C'est ça qui est marqué dans le passage. D'accord? Je vais te mettre des prophètes comme tu l'as demandé au Har Sinaï. Pourquoi? Parce que j'ai dit au Har Sinaï, je ne voulais pas écouter la Torah par Hachem, alors c'est que des prophètes, oui, parce qu'en fait, la prophétie, c'est la continuité du Mamad Har Sinaï. Le Mamad Har Sinaï, il est passé par un prophète, ça continue après dans la Torah. En vérité, comment ça s'appelle dans la Torah? La Torah, comment elle s'appelle? Alors, que tout le monde connaît Azinu, je ne l'ai pas marqué. C'est marqué là-bas. Esh, dat, lamo. Et Rachid Abaye, c'est quoi Esh, dat, lamo? C'est la Torah de feu. La Torah de feu qui brûle. La Torah qui passe par Hachem qui brûle et elle passe par le prophète, ça refroidit un petit peu. Alors, Esh, dat, c'est la Torah. Ouais, dat, c'est la Torah. Et c'est quoi le Rambam quand il dit c'est la Torah, mais la Torah du prophète, la Torah qui passe de feu, cette Torah de feu qui est marquée dans le Passouk, c'était ce feu intense, cette Yeshua Gedola, on ne supportait pas. En fait, la prophétie, la parole de Dieu qui est directement livrée au peuple juif, la Torah appelle Esh Dat, Torah, un date de Esh. Et donc, en fait, quand le Rambam dit Bitu Datam, ça veut dire quoi? Ils ont annulé leur religion. Ils ont annulé la prophétie. C'est ça que le Rambam dit. Non. Bitu Datam, c'est-à-dire que les Grecs, ils ont provoqué l'arrêt de la prophétie. C'est ça le contexte historique de Hanouka. Il faut bien comprendre. C'est d'abord ça, avant toute chose. Parce que Hanouka, ça vient après. C'est Alexandre le Grand, il est mort déjà. Enfin, on est déjà dans la scission entre les généraux d'Alexandre, il y a les Ptolémées, il y a les Antiochs russes, il y a les machins. Et ils se sont partagés les quatre grands généraux d'Alexandre le Grand. Et ensuite, ils sont en Israël. Il y a la gouvernance des Ptolémées et il y a l'histoire de Hanouka qui est un petit peu après, à l'époque de Yossi Ben Yosser et Yoshua Ben Piraché a priori. Mais pas tout comme c'est marqué dans le Fédéral. C'est le début des Zougotes. Et donc, les Ré, qu'est-ce qu'ils ont provoqué? Alexandre le Grand, il a d'abord, la Galout Yavan, c'est celle qui provoque la rébellion. Et encore une fois, la prophétie, on a dit, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait Aaron, Achicha, Yedevi, Aaron, Achicha sera ton prophète. Il n'y a pas sera ton prophète. Aaron, ce n'est pas le prophète de Moshe. Ce n'est pas non plus le prophète d'Hachem, puisque c'est Moshe le prophète d'Hachem. Rachid Abaye traduit, prophète, celui qui parle, Niv, la parole de la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète, celui qui parle, le porte-parole, c'est lui porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Et le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est le prophète. Le porte-parole de Moshe, c'est Aaron. Exactement. C'est la meilleure façon de le dire. Il porte la parole. D'accord? Donc, ça, c'est le pshat du Rambam. Et comment ils ont fait? Et pour aller un peu plus loin, vous avez dans le texte de Hanouka, dans la Tfila, je ne l'ai pas marqué ici, vous trouverez à la Nissim, à la Fourcade, c'est Bimé Matitia. Ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ils ont fait quoi? Vous connaissez le texte par cœur? Don Kohen Gadol. Amda, Yavan, les Ashkicham, t'en rappelles. Ou les Haraviram, mais alors, c'est quoi les Hashkicham Torah Pécha? Pour leur faire oublier la Torah. C'est un truc que personne ne se demande. Moi, quand j'écoutais Ramoshé Kourabira qui a posé la question, j'étais étonné de me le poser. On parle, mais on ne comprend pas trop ce qu'on dit. Il dit les Hashkicham, leur faire oublier Torah Pécha, ta Torah. Comment on peut faire oublier quelque chose à quelqu'un? Comment vous prenez une partie de ton cerveau, vous coupez une partie de la mémoire? Alors, on ne fait pas oublier. Alors, on l'empêche d'étudier et il oublie, mais on ne le fait pas oublier. On ne peut pas faire oublier quelque chose à quelqu'un. On peut provoquer qu'il arrête de penser. Du coup, mais faire oublier, ça veut dire quoi? Ils les ont fait oublier la Torah. C'est-à-dire qu'on remplace. Alors regardez, ça me tombe bien, c'est parce qu'au moins ça fait un clin d'œil sur la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, c'est marqué Le Zahar Sar Amashkimet Yosef, Vaishkachéou. Il ne s'est pas rappelé de Yosef et il l'a oublié. S'il ne s'est pas rappelé, il l'a oublié, ça veut dire quoi cette phrase? Alors Rachid dit quoi? Vélo Zahar Saramashkim, Bobayom, le jour même. Vaishkachéou Rachidi, la Kharmikan après. Il s'est pas rappelé de lui le jour même et il l'a oublié après. Alors si c'est pas rappelé le jour même, c'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il n'y avait jamais dans la tête. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? faut comprendre quelque chose, que le zikaron dans la Torah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est se rappeler de quelque chose, c'est revenir à son origine et l'avoir bien en tête. C'est-à-dire, en français, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en vérité, le Sar Mashkin, il a, quand Yosef, il lui a dit ce qu'il lui a dit, il a écouté, il a compris, il a enregistré, mais il a pas vraiment pris en compte ce qu'il lui a dit. Il n'a pas voulu intégrer parce que ça n'intéressait pas. Quand quelqu'un il vous dit quelque chose, sur le coup, vous vous rappelez, le lendemain, vous l'avez oublié. Mais si vous demandez une minute après, vous savez ce qu'il a dit. Mais des fois, une heure après, vous l'avez oublié. C'est-à-dire qu'en vérité, pourquoi vous l'oubliez? Parce que vous êtes déconnecté de sa parole. Vous n'avez pas voulu intégrer ce qu'il a dit. Et donc, là, le zikaron, il est faible, et donc il s'efface automatiquement, donc vous oubliez. Quand il dit le zahar, ça veut dire quoi? Il n'a pas prêté attention, il ne s'est pas rappelé, c'est-à-dire qu'il n'a pas intégré. Le zikaron, c'est d'intégrer la chose, la source de la chose, et puis après, une fois que je suis connecté avec cette chose, c'est une information que je vais absolument retenir, alors je l'oublie pas. Mais si c'est une information que quand je la connais, ça ne m'intéresse pas de la retenir, alors je finis par l'oublier. C'est ça que ça marche. Parce que si jamais je ne l'ai jamais enregistré, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai. Et donc, il y a une mitzvah de ne pas oublier le Mahamad Arsinaï. Alors, je vous ai ramené le passage, c'est dans Dvarim. Mais aussi garde-toi. Ishamer nafshecha, Ishamer lecha, Ushmor nafshecha mo. Ushmor nafshecha. Pour ton salut, d'oublier les événements, Pentishka et Tadevare, ma chère Raouenecha, dont tes yeux furent témoins, les laisser échapper de ta pensée. À aucun moment de ton existence, Kol fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et n'oublie pas ce jour où tu parus en présence de l'Éternel, ton Dieu au Horeb, lorsque c'était un lundi, etc. Et la montagne, à la fin, était embrasée de feu qui s'est mis jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hou, il exhorte le peuple juif, il leur dit, n'oublie pas, n'oublie pas. Shmor, fais très très attention, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Ça veut dire, tant que tu restes, comment tu fais pour pas oublier? Comment ça se fait si j'oublie ou j'oublie pas, ça va? C'est-à-dire, si je reste connecté au Mamad Arsinaï, si je continue à vivre le Mamad Arsinaï, je n'oublie pas. Si je le vis plus, si c'est quelque chose qui m'intéresse plus, si je suis déconnecté de ce moment-là, alors je vais l'oublier. Et donc, comment tu fais pour ne pas oublier? Mais si je le connais, comment je vais l'oublier? Si je ne le connais pas, je ne le connais pas. Si je le connais, pourquoi je vais l'oublier? Ça marche comment, oublier quelque chose? Ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas importante. Donc, tu finis par l'oublier. Donc, fais très attention de bien toujours donner une place centrale à cette chose-là dans ta vie. Et donc, en vérité, c'est quoi les Hashkicham Torah Techa? Ils ont fait oublier la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont déconnecté du Mamad Arsinaï en annulant la prophétie. Et les Juifs sont restés livrés à eux-mêmes sans la parole d'Hachem, sans la prophétie. Donc c'est le crochet. Parce que la parole d'Hachem, elle éclaire de l'extérieur. C'est une lumière qui vient de l'extérieur. Donc là, le Yavan, c'est la prophétie. Il amène une obscurité totale dans le peuple. Et ça, c'est resté. Mais il y a une petite lumière qui est revenue quand même. Vous avez compris, quoi? C'est la fin. Il y a une petite lumière quand même qui est revenue. Mais la prophétie, elle s'est arrêtée. Nous, on a gagné quand même un petit peu. Il y a plus de crochets que de lumière, mais ils ont gagné. Ils ont gagné beaucoup, mais nous, on a gardé quelque chose. Là, je vais vous donner un autre exemple de ce qu'on vient de dire. Quand Korah, le Rambam, il écrit dans une Sefirot, il me semble que c'est Grette Théman, il dit, c'est marqué que celui qui Kofer Batorah, il y a Doua chez l'Oham, Doua Votéava à l'Arsinaï. On sait que ça veut dire que ses ancêtres, ils étaient pas Arsinaï. C'est Kofer Batorah de Moshe. Ah, mais Korah, il était au Arsinaï. Ça veut dire quoi? On sait qu'ils n'étaient pas là. Ça veut dire qu'en vérité, il s'est déconnecté du Mamad Arsinaï. C'est comme si ses ancêtres, ils n'étaient pas Mamad Arsinaï. Ils étaient là physiquement, mais ils n'ont pas transmis. Et donc, il y a eu une coupure, il y a un itouk, une déconnexion entre lui et le Mamad Arsinaï. Donc, ça veut dire qu'il est plus connecté au Mamad Arsinaï. C'est comme s'il n'était pas là-bas. C'est-à-dire qu'être au Mamad Arsinaï, c'est continuer à intégrer les choses. Si tu ne continues pas à intégrer les choses, tu sors de cette déconnexion. Alors, maintenant qu'on a posé un peu le décor historique et qu'est-ce que les Grecs ont provoqué, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a chez les Grecs de spécifique par rapport aux hommes goyim qui a provoqué cet événement-là, cette chose-là. Pourquoi c'est les Grecs la rébellion des bois? Pourquoi ça arrive avec les Grecs? Alors, vous savez, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il dit un lâcheur extraordinaire quand même sur Aristote, que vous avez sûrement entendu parler. Il dit qu'Aristote, il a compris tout ce qu'il y avait sur cette terre. Et c'est très dur de ne pas être d'accord avec lui. Il y a deux choses où il n'était pas d'accord avec lui. Mais le Rambam dit qu'Aristote, il est arrivé à un niveau proche de la prophétie, tellement il avait compris les choses. Vous savez que Rambam, il trouvait Aristote quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que, mais seulement il y a un Ramban. On va voir, est-ce qu'ils sont machloket ou pas. Le Ramban, dans Acharimot, à propos de Loïs Bechoua de la série Machéren Zohrim, la haine, je ne sais plus comment on dit le nom de Passou, il dit comme ça. Il explique c'est quoi le sod de, c'est quoi le saïr, c'est les chédim, il dit Marif, Marif, Marif. Et à la fin, il dit, mais c'est pourquoi je t'ai expliqué tout ça alors que normalement, il n'explique pas les sodotes. Il dit qu'il y a une autre crime, la ressemble pi à mitratmim beteva. On a besoin de fermer la bouche de ceux qui sont, qui font les intelligents dans la nature. Anim shachim achara yevani. Ils se recommandent, ils se réclament du grec. C'est scientifique, là. Ils se réclament du grec. Le grec, c'est, est-ce que c'est Socrate ou Aristote? Je sais pas. De toute façon, ça revient à peu près au même. Élève, on a dit Socrate, Platon, Aristote. Asher Ikrish Kol Davar Zulatia Mongachlo, qui a nié toute chose à part celle qui était atteinte par ses sens, qu'il arrivait à atteindre par ses sens, et il a pensé, où est-elle, lui, ses élèves, a prié, c'est Socrate. Et Igis Dato, c'est pas juste la pensée, c'est un gasoudat, c'est-à-dire c'est une grossièreté de l'esprit terrible, il dit Ramban, lui et ses élèves, les Réchaïm, qui collinent chez Loïs Sigela, vise Barato, que chaque chose qu'il n'a pas atteint dans son, avec son esprit, et ben, Enomet, c'est pas vrai. Donc, en fait, le grec, c'est celui qui dit ce que je connais, ce que je comprends, ça existe, ce que je ne comprenais pas, ce que je ne comprends pas, ça n'existe pas. En fait, le grec, c'est le grec, c'est celui qui nie toute la métaphysique. Pas la métaphysique. Évidemment, il réfléchit à la notion de Dieu, à la notion. Vous voyez, si vous avez lu un peu Platon, vous voyez qu'il parle de tout, il parle de la vie, de la mort, de toute chose. Mais ça veut dire ce que je comprends avec mon esprit, jusqu'à là. Ah, il n'y a pas un monde qui m'échappe, il n'y a pas quelque chose de transcendant. Parce que dans la Torah, il faut bien comprendre, le Icare de la Torah, il y a le mot d'unité que tout le monde connaît, mais en réalité, tout ça, c'est fondé sur des choses qui nous dépassent à nous, qu'on ne connaît pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la Torah Takabala, c'est-à-dire qu'en vérité, si la Kadosh Baruch Hu et la Torah, elle ne te donne pas, elle ne te montre pas les choses, ne dis pas que ça existe, tu ne peux pas imaginer que ça existe. C'est quelque chose qui doit venir de l'extérieur, ces informations, tu ne peux pas les découvrir. Donc en réalité, toute la Torah, la névoie, la prophétie, c'est quoi? C'est quelque chose de divin qui vient de, en haut et qui tombe chez l'homme. Mais l'homme tout seul de lui-même, il n'aurait pas eu accès à ce guilouille, à ce dévoilement. C'est ça tout le fondement de la religion juive, c'est le guilouille, c'est la manne d'Arsinaï. C'est qu'il y a quelque chose qui est venu, il nous a dit, viens, je te donne ma Torah, qui est je te donne. Mais si tu ne la donnes pas, tu ne l'as pas, parce que si tu l'as sans qu'il te la donne, alors pourquoi il te la donne? Tu n'as pas la Torah sans qu'il te la donne. Tu n'as pas ce dévoilement-là. Le grec, c'est celui qui nie le dévoilement divin. Il dit, le dévoilement divin, moi je ne connais pas. Moi je connais ce que je comprends. C'est mon réel, ma havana. Ce que je touche, ce que je connais, c'est tout. En fait, le grec, c'est celui qui nie complètement la névoie. Mais il est tellement intelligent, le grec, que c'est très beau ce qu'il dit. C'est très intelligent. C'est extraordinaire. Donc, il attire le monde entier avec ça. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, l'esprit occidental, c'est l'esprit grec. Chez les Arabes, ils n'ont pas ça. Les Arabes, ils sont créés aussi dans l'esprit. Mais le monde occidental, le monde, la culture romaine, c'est la culture grecque, parce qu'il faut savoir que les Romains, ils ont juste pris les dieux des autres. Historiquement parlant, on le sait. Chez les Romains, tous les dieux qu'il y avait en Égypte, en Grèce, etc., et tout celui qui venait, il ramenait son dieu, il rajoutait. Mais les Grecs, sur les Romains, on dit Bazou Yatameon, on l'a vu dans l'Aftar il n'y a pas longtemps. Le Romi, la Gemara, il dit En Laem Kol, ils n'ont pas de langage à eux, ils n'ont pas d'identité culturelle, les Romains. Les Romains, ils ont repris ce qu'il y avait avant eux, principalement la culture grecque. Bon, ils ont transformé tous les noms des dieux romains, c'est les noms des dieux grecs transformés. Ils ont transformé Aphrodite et Vénus, par exemple. En tout cas, ils ont repris la culture grecque. Mais la philosophie grecque, elle est prégnante jusqu'à aujourd'hui, en vérité. Même la méthodologie grecque, tout ce qu'il faut apporter. C'est-à-dire qu'en fait, le grec, c'est celui qui a mis l'homme au centre du village et il a dit, c'est moi qui, ce qui compte, c'est ce que je. Et donc ça nie par définition la névoie. Ça nie la révélation. Donc maintenant, à partir de maintenant, la forma est horizontale et elle est plus verticale. Il n'y a rien qui vient d'en haut. Nous, on ne connaît pas ça. Et ça, ils ont gagné. Sur ça, ils ont fait la guerre. C'était ça la vraie guerre avec eux. C'est pour ça, qui c'est qui est resté, qui a fait la lutte? C'est une petite poignée de gens. Les autres, ils étaient pris. Peut-être un peu, peut-être beaucoup, mais en tout cas, les mitiavnim, les hellénisants, ce qu'on appelle en français. Les hellénisants, ils étaient très nombreux dans cette lutte. Se sont fait bouffer comme au moment de la Scala. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu apportes de la bêtise à un juif, pas, mais quand tu apportes une grande intelligence, ils étaient brillants. Et en fait, la seule façon dont ils pouvaient arriver à cette bêtise, c'est d'être très intelligent. C'est leur intelligence. Je veux dire, tellement je suis intelligent que tu vois, j'ai tout compris. Comme dit le Kuzari, Khouzari dit que tu sais pourquoi Aristote, il a dit que le monde était éternel? C'est parce que le pauvre, il n'a pas reçu de ses parents une transmission claire. Mais si jamais ta mère, elle te raconte, si tu sais, bah, moi, je suis né à telle date, et après, ma grand-mère, elle est née à telle date. Tu ne vas pas dire, non, non, elle a inventé, tu sais que c'est vrai. Eh bien, nous, depuis des centaines, depuis toujours, on sait, voilà, on a une transmission, mon père m'a raconté, j'ai un livre, voilà, on a tout écrit, voilà, le monde a été créé à telle date. Mais comme lui, il n'avait pas ça, donc, bah, ils vont dire, mais comment le monde il a commencé? Bah, il a inventé que le monde, il a toujours existé. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'a pas de transmission, voilà. Et avec, c'est un des grosses erreurs grecques, c'est l'holamakadmon, c'est ça que le Rambam lutte avec Aristote. Une des choses où il est en désaccord frontal avec Aristote, après le Rambam, il hésite à être en désaccord comme vous l'avez dit. C'est sur ça, sur l'holamakadmon, sur le monde qui est éternel, c'est-à-dire qui a toujours existé. Non. Pourquoi le Rambam, on a dit qu'Aristote, il a tout compris. Il a raison, Rambam. Aristote, il a tout compris dans ce monde-là. Dans ce qu'il a, dans ce qu'Akadosh Baroukh il a laissé comme information dans le monde, ça veut dire au niveau de la science, bien qu'on sait qui c'est qui l'a inventé, en fait. À l'époque du Rambam, la philosophie d'Aristote, c'était elle qui avait raison. Aujourd'hui, on sait que scientifiquement, tout ce qu'il a dit est faux. Simplement, même si je vous parle de la science, même ces astres, la façon dont les astres fonctionnent, ce que le Rambam y ramène, ça veut dire la médecine d'Hippocrate, la science d'Aristote, dans le Maguid Mishnah, il ramène ça. Et ben, en réalité, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, a priori. Parce que c'était le Hémètre à cette époque-là. Mais lui, il a considéré qu'Aristote, c'est celui qui était arrivé avec les moyens qu'ils avaient d'expérimentation de son époque. C'est lui, il a tout compris. Et vraiment, pour les moyens d'expérimentation de son époque, il a vraiment tout compris. Seulement, ce que le Ramban dit, c'est pas qu'il dit que le Ramban s'est planté, Ramban est très, 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 le Nachmanide, il est énormément le Maïmonide. Seulement, il dit, le problème d'Aristote, c'est qu'il pensait qu'il n'y avait rien d'autre. Il a nié toute la révélation de Dieu. Il n'y a que ce que je connais de lui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le crochet le plus total. Et ça a arrêté la névoie. Alexandre, et pourquoi ça s'est arrêté avec Alexandre? Encore une fois, parce qu'on a dit, Alexandre, c'est lui qui a fait diffuser la culture. Parce qu'il a conquis le monde entier, comme on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. Un roi, peut-être avec Nebuchadnezzar, les grands rois, il a diffusé la culture grecque dans le monde entier. Et ça a provoqué l'arrêt de la prophétie. Non, je vais rajouter un détail sur la prophétie. Je dévie un peu du mariage commun. Le film, il est un peu spécial. Le prophète, quand il parle, c'est quoi la différence quand le Chacham il parle ou quand le prophète il parle? C'est quoi la différence? À part que le prophète il parle de la révélation et le Chacham il parle, mais le Chacham il parle aussi de la Torah. Non. C'est quoi la différence fondamentale? À Hanouka, vous savez, c'est pas écrit. Il n'y a pas de Megillat. Il y en a une, mais. Pas des textes de Chazal. Megillat, pas un texte qu'on lit comme à Purim, etc. On ne lit pas la Megillat. On allume une flamme, on dit un petit noussach de Alain Nissim, c'est tout. Mais il y a pas de, on raconte pas d'histoire. Alors la raison, elle est comme ça. Elle est que comme Hanouka, c'est après la fin de la prophétie, et Purim, c'est avant la fin de la prophétie, c'est entre le premier bêta Migdash et le deuxième bêta Migdash, il y a encore d'autres. Quelle est la différence entre le prophète il écrit? Vous savez, il y a la fameuse Mara, est-ce que Megillat Esther, elle avait con en Hakodesh. À la fin, on a rentré Megillat Esther dans les Ktouvim, dans les Nevim Ktouvim. Au début, c'était pas évident que ça rentrait, elle a demandé, etc. Donc à la fin, c'est rentré. Esther, ça a été écrit en Hakodesh. La différence, quand le prophète y parle, quand le Chacham y parle, c'est pas pareil. Le prophète, quand il parle la parole d'Hachem. Va Asim Devaray Befir. Tu vas parler de ce que moi je vais dire. En réalité, c'est quoi la différence entre une parole qui est divine et une parole qui est humaine, simplement? C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand Hashem il parle d'une chose, il parle de la chose elle-même. Le prophète, quand il parle de la chose. Le Chacham, quand il parle à propos de la chose, mais pas de la chose. Bon, je m'explique. Ça, c'est un grand yesod dans le Sharon Shapira qui revient d'innombrables fois dans ses cours. C'est qu'en hébreu, le mot davar et le mot davar, c'est le même mot. Ça veut dire la parole et la chose, c'est le même mot. Le'olam dvacha Hashem tzav. Toujours, ta parole est encore dans les cieux. Le Tanya, il ramène ça dans le Shaar Emunah. Et c'est ramené aussi, en fait, c'est un Midrash Tehillim. Il dit qu'en vérité, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est toujours présente et c'est elle qui continue à faire exister le monde. C'est-à-dire que chaque chose, il a un nom. Il a un nom qui est fondamental, pas un nom de convention. Et en vérité, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que la Torah qui a fait exister le monde, cette parole-là, C'est elle qui crée, qui est créatrice, qui fait que la chose, elle existe. La parole, elle est encore présente et c'est elle qui fait exister les choses. Comme si Hachem, il a créé le monde avec des paroles. Il n'a pas créé le monde avec la pensée, une action, avec des paroles. C'est marqué. Ben, Sarah, Mamarot. Donc, ça veut dire qu'en vérité, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui continue à persister. Il ne faut pas essayer de s'imaginer, il faut essayer de conceptualiser. Et c'est la chose qui existe dans la médecine devant nous, c'est, elle tire sa source d'une parole. Donc, quand Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il écrit quelque chose, par exemple, la définition d'un mot, on cherche à définir une chose dans la Torah, on va chercher comment elle s'appelle, son nom, et on va voir son interprétation. Mais en réalité, ce mot-là, c'est cette chose-là et ce mot-là, ben, c'est juste ça, c'est la parole qui fait exister. Ce mot-là, c'est cette parole-là qui fait exister cette chose-là. Et sans cette parole, cette chose, elle n'existe plus. Kadosh Baruch Hu, il suffit qu'il coupe. C'est-à-dire une parole, et ben, ça enlève une partie des choses. Alors que, donc quand le prophète il parle, tout ce qui est écrit dans la prophétie, ce n'est pas un regard sur l'histoire. Le prophète, il n'a pas un regard sur l'histoire. Il écrit l'histoire telle qu'elle s'est passée. Il écrit les choses elles-mêmes telles qu'elles étaient. Et non pas un regard qu'il a sur l'histoire. C'est très conceptuel. Et c'est à la fois, on peut bien comprendre ça. Imaginez qu'à Kadosh Baruch Hu, il vous raconte une histoire. Il ne va pas vous raconter l'histoire avec un regard subjectif de son interprétation. Il va vous raconter les choses telles qu'elles sont. Et vous verrez que souvent, la Torah est écrite de manière très simple. Ce n'est jamais un regard subjectif. Alors que si quelqu'un raconte une histoire, qu'il a vue lui, c'est quelqu'un qui assiste à l'histoire, il va vous raconter comme il a vécu. Et deux personnes n'ont jamais raconté l'histoire de la même manière. Donc après la prophétie, ce n'est plus possible de raconter une histoire. Bon, l'histoire juive. Parce qu'après la prophétie, tout ce qui va être écrit, ça va être forcément subjectif, ça va forcément être une façon de voir les choses qui ne rend pas compte de toute la réalité de la chose exactement. Ça n'a toujours qu'un regard. Et nous, on ne veut pas ça. Notre histoire, elle est transmise par la prophétie. Après, c'est de l'histoire. C'est des historiens qui le disent. C'est toujours, il y a toujours une part de relativité. En fait, quand les Ktuvim s'arrêtent, c'est terminé. Après, tout ce qui existe après, c'est à démontrer, c'est une façon d'exprimer les choses. Il y a toujours une. Flavius Josèphe, il a écrit beaucoup, mais on sait très bien qu'il a écrit à sa manière et comme il voulait, en fait, son intérêt politique, parce qu'il devait ménager aussi, etc., les autorités romaines, etc. En réalité, c'est. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les histoires sont fausses, je dis juste que c'est toujours subjectif, c'est un regard. L'historien, il t'amène l'histoire comme lui l'a compris. Il suffit qu'il ait un peu des mauvaises midotes ou qu'il ait un intérêt quelque chose. L'histoire qu'on a aujourd'hui, c'est une histoire d'historien. On ne sait jamais c'est quoi vraiment l'histoire qui est passée. Mais quand c'est un prophète qui parle, c'est pas une histoire telle, c'est pas un regard sur l'histoire, c'est l'histoire. C'est-à-dire que Keilou, si tu prends chaque mot, et ben c'est une partie de l'histoire. Et Kaverkhod, si quelqu'un il savait utiliser la Torah pour créer des choses, il pourrait recréer cette histoire et les gens ils reviendraient, ça se passerait devant toi. C'est ça la prophétie. Donc en réalité, c'est pour ça qu'à Hanouka, il n'y a pas de texte. On n'y a pas de texte. Parce qu'il n'y a plus de prophétie, on ne peut plus raconter la prophétie sur l'histoire. Ça sera toujours très subjectif. On ne peut pas parler à Hanouka, on ne peut pas raconter. Alors qu'est-ce que oui, on fait? Alors maintenant, on va passer à la troisième étape de ce cours. Finalement, les Juifs, ils ont gagné. Ils ont gagné. Il y a eu une Nitzachon, on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il n'y a plus de prophétie, la prophétie n'est plus là. Alors, on a gagné quoi, finalement? Parce que finalement, la prophétie n'est pas revenue. Mais regardez. Mara, donc, Tfachim, à la fin de la page en bas. Et la Hanachlaim d'Israël. Laisse-les les juifs. Le contexte n'est pas important ici. Im en Nevim, si ce n'est pas des prophètes, Ben Nevim, c'est des fils de prophètes. Bien faire attention, le mot fils de prophète, ce n'est pas fils, parce qu'on n'est pas des fils de prophètes. Moi, je ne suis pas un fils de prophète, je ne suis pas fils de prophète. Ben, ça ne veut pas dire fils. Il y a beaucoup dans la Torah, le mot Ben, il ne veut pas forcément dire un enfant d'eux au niveau génétique ou filiation. Ben, ça peut être Ben Ir, par exemple, Ben Kra. Dans les villages, il y a celui de la ville et celui du village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient à. C'est un villageois, on l'appelle Ben-Ir. Et une grande ville, et un petit village. Et une petite ville, c'est Ben-Kfar. Le mot Ben dans la Torah, c'est aussi une notion d'appartenance. C'est-à-dire qu'on a une appartenance avec les prophètes. Même si on n'est plus des prophètes, on continue à avoir l'appartenance avec la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie, c'est vrai qu'elle n'existe plus, mais on a continué à garder une appartenance. C'est-à-dire que la parole d'Hachem, même si elle ne passe plus, il n'y a plus de révélation divine qui vient d'en haut et qui vient nous parler, mais on a quand même quelque chose qui nous éclaire, qui fait qu'on a une appartenance avec la prophétie. Alors, par quoi ça parle? Et comment c'est lié avec Hanouka? On a gagné. Alors, c'est bien qu'on ait. La prophétie, elle n'a pas pu disparaître. La prophétie, elle a disparu. C'est-à-dire qu'on ait gardé quelque chose. Alors, d'abord, il y a un autre sujet sur cette chose-là que je n'aurai pas aujourd'hui à te marier, mais on a gagné la Chokhmah. faut savoir que la chokhma, elle s'est développée après l'arrêt de la prophétie. La machloket, la notion de Talmud, la notion d'étude, on a nous aujourd'hui, c'est l'arrêt de la prophétie qui a prouvé. Parce que tant que la prophétie existait, la parole, elle était imposée presque. D'étudier, mais finalement, il y avait pas ce, on ne devait pas retrouver par nous-mêmes le sens des choses. Après, la chokhma s'est développée. D'ailleurs, hier, il y a dit un très beau remède. Et il ramène que Esh dat lamo, c'est les mêmes mots que Talmud. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une trace du dat lamo dans le Talmud, c'est-à-dire qu'à travers le travail, le hamal, quelqu'un par la chorma, il peut retrouver la vérité. Mais c'est aujourd'hui, ça passe par le pilpoul, ça passe par la chorma, ça passe par le hamal, le casse-tête terrible. Et c'est pour ça que la Torah, en réalité, la richesse de la Torah, elle a commencé par la chorma. C'est quoi la richesse de la Torah, de la machloket? C'est-à-dire la subjectivité. À partir du moment où il y a une subjectivité dans la parole, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la notion de la prophétie, que la parole est d'un extérieur, mais c'est nous qui l'interprétons avec notre tête à nous, forcément, chacun il va interpréter quelque chose, il va les comprendre différemment. Et donc, il y a un ribouï machloket, mais c'est pas, il y a aussi un ribouï machloket dans le sens, mais il y a aussi plusieurs facettes de la Torah qui vont se dévoiler, parce que Elou Ben nous dirait Elohim Chayim. Donc, on a gagné des mêmes choses, et on a perdu la prophétie, c'est sûr, c'est l'essentiel de la Torah. La révélation, mais Akash Bokhu, Ashgachato, il voulait ça. Pourquoi je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Mais Akash Bokhu, il a dévoilé une nouvelle facette de la Torah qui s'appelle la Chokhma, qui s'appelle le Elul Elul, qui s'appelle l'éclatement et la subjectivité que chacun maintenant il va avoir son propre rapport à la Torah et la Torah ne va pas être par le prophète. Ça, c'est la première chose. Mais par rapport à Hanouka, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Regardez, il y a un passou. Je vous ai amené sur la page. Mikhout les parochet à Elou. Beoel Moed, il y a Aaron Koto Aaron Manav, la suite du Passouk, Meirevat Boke. Etc. Ça veut dire quoi? La menorah, elle était dans le Echal. Il y avait au sud, c'est-à-dire côté gauche, quand vous rentrez dans le Echal, dans le deuxième état de Dash, il y avait la table. À droite, c'est-à-dire au nord, c'est le contraire. La menorah était au sud. À droite, il y avait la table. Arrosé chez Yahashir Yatspin et arrosé chez Yarkim Yadrin. La menorah, elle est au sud, c'est-à-dire elle est à gauche. Ah, d'accord, on comprend. Maintenant, c'est quoi la menorah? Il y a trois Keter. Il y a Keter Malchut, Keter Torah, Keter Keuna. Keter Malchut, c'est le roi, c'est la Parnassa, c'est celui qui subvient dans son pays, c'est le gestionnaire, c'est le Shulchan. D'ailleurs, c'est trois Kélim dans le Beth Amidash qui avaient un zer. Il y avait trois qui avaient zer, zav, salut. C'est le Aaron, le Shulchan, Menorah. Le Mizbeach Hazav, pardon. Mizbeach Hazav. Alors, le Mizbeach, pardon, c'est la Avoda. Le Shulchan, c'est. Il y avait le Mizbeach Hazav aussi. Le Mizbeach Hazav, c'est le zer de la Kehuna, c'est le Keter Kehuna, c'est la Avoda. Le Shulchan, c'est la table, c'est le Keter Malchut. Et le Aaron à Edout, c'est Keter Torah. Et la Menorah, c'est quoi? Elle sert à quoi la Menorah? À faire de la lumière. Donc, c'est très bien qu'elle s'en parle. Elle a dit, est-ce qu'il a besoin de ta lumière? Pas besoin de ta lumière. La menorah, c'est quoi? Alors, regardez ce passage qui est extraordinaire, parce que, regardez. Mihoutz les parochet, en dehors de la parochet du témoignage, dans le Ohel Moed, Aaron, il va redonner la menorah. Pourquoi vous définissez la menorah en étant en dehors d'eux? Quand vous voulez me dire quelque chose, vous dites, où elle est cette chose-là? Ben, elle est dans le Echal. C'est ça qu'il faut dire. Je dis pas, elle est, c'est où la menorah? Elle est en dehors de la parochet. C'est-à-dire, elle est à l'extérieur du Kodesh HaKodesh. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant de dire? C'est intéressant parce qu'en vérité, le chidouche ici qui est extraordinaire, c'est qu'en vérité, la menorah, c'est celle qui fournit la lumière de la Torah à l'extérieur de l'homme. Le Aaron, il est en Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est caché à l'intérieur. On n'a pas accès, personne ne rentre. Une fois par an, le Kohen Gadol est terminé. Il n'y a personne qui a accès au Kodesh HaKodashim. On ne peut pas rentrer. Le Echal, tous les jours, on rentre faire la Avoda. Faire la menorah, faire le Ketoret, sur le Bachanav. Donc, le Kodesh HaKodashim, où il y a le Torah Taedout, les Louchot Taedout, ça, c'est inaccessible. Il y a une partie toujours de la révélation qui est inaccessible. Mais par contre, en dehors du Parochet Taedout, vous avez la Menorah, que c'est la lumière qu'elle éclaire, c'est la lumière de la Torah. Elle diffuse la lumière de la Torah dans le monde. C'est pour ça que la Gemara le ramène dans Baba Batra. Amar Rabbi Yitzhak, Arotze, chez Yarkim, celui qui veut être Mitrakem, celui qui veut la Chokhma de la Torah, Yadrim, il se tourne vers le sud. Il s'attache à la Menorah. Celui qui veut la richesse, Yatspin, il s'attache à la table vers le nord. Parce que la Shulchan était au nord et la Menorah était au sud. En vérité, la Menorah, c'est celle qui diffuse la Chokhmah. Ça veut dire, la Ehara de la Torah, conceptuellement, c'est-à-dire la Torah qui se propage dans le monde, c'est-à-dire la possibilité d'attraper des horotes, d'attraper des compréhensions et de s'attacher à la Torah, elle nous est fournie par cet élément qui s'appelle menorah. S'il n'y avait pas de menorah, la Torah elle resterait inaccessible et on n'aurait pas de possibilité de s'accrocher à la Torah. Regardez, il y a une autre chose extraordinaire. C'est un midrash Bereshit Rabba. Beshah Shaya Omer Davar, Adam Omer Davar Metuka Nifne Rabbi Tarfon. Quand quelqu'un disait quelque chose de bien dit, de beau de Torah devant Rabbi Tarfon, il disait Kaftor Vafera. Kaftor Vafera. Les boutons et les fleurs. Les boutons et les fleurs, c'est Kaftorim Prachim, c'est dans la menorah. Quel rapport? Alors le pshat, il est simple. La menorah, c'est la Yarad la Torah. Et quelqu'un qui disait quelque chose de bien dit, il appelait les décorations. Les décorations de la menorah, c'est Kaftor Vafera. Ça décorait la menorah. Donc quand tu parles de la Torah, bien, de manière jolie, de manière propre. Alors, ça, il appelait ça Kaftor Vaferar. Tu as bien décoré. De la manière que la menorah, elle est décorée par Kaftor Vaferar, alors ta parole, elle est bien décorée, elle est bien un outil. C'est les finitions, elle est finie, ta parole, comme les finitions de la menorah qui était Kaftor Vaferar. Donc, on voit bien de toutes ces choses, de tous ces textes-là, que Chazal, il considère que la menorah, c'est la Ehara de la Torah, elle passe par la Torah, elle passe par la menorah. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Timou et Kolashmani. Ça aussi, c'est important. Je l'ai parlé dans la Mekomot. Il y a une Mara dans Nachot qui dit qu'il y avait un endroit qui s'appelait Tekoa. Et là-bas, ils étaient très chachamim parce qu'ils fabriquaient l'huile. Il y a un lien direct entre la Chorma et le Shemen. Shemen Zaïd, c'est la Chorma toujours. Hein, pour ça. Ça, conceptuellement, ça représente la Chorma. Parce que, c'est, pourquoi? Parce que, c'est comme on a dit. Et quand les Grecs, Timou Kolashmanim, Timou Kolashmanim, c'est-à-dire Satmou et Kolashmanim, ils ont bouché la Chorma, la vraie Chorma, ils l'ont bouché. Ils sont venus avec leur Chorma, eux. Et ils ont dit, nous, voilà ce qu'on connaît, voilà, nous, on vous propose ça, nous, dans notre philosophie. Ils étaient très intelligents, mais ils ont bloqué la vraie Chorma. Timou et Kolashmani. Ils ont gagné, ils ont vraiment été métamétiques. Ils ont été sautem, parce que la Touma, c'est la Stima, c'est les choses, elles viennent boucher. Ouais, c'est ça, toujours, dans Rachi, on voit dans le Touma, tous les parties s'accordent, que la Touma, c'est la chose Stima. Quelque chose de atout, de boucher. C'est ça, Timou Kolashmani. C'est encore une fois, c'est évidemment, ça veut dire qu'ils ont rendu impur les huiles, mais c'est toujours sur deux plans. Il y a toujours un plan de conquête, un plan de guerre, il y a toujours sur un plan matériel, et il y a toujours sur un plan conceptuel, c'est toujours sur deux plans, la guerre, comme toutes les guerres, d'ailleurs, en général. Et nous, on n'a trouvé pas Rechat Shemen. Il restait une fiole d'huile, qui était restée de Tao. Une seule. Et la première chose qu'ils ont fait, il faut allumer la maison. Ils ont première chose, ils rentrent dans les râles, on allume la menorah. On retrouve l'éclat de la Chorma. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné sur Yavan? En vérité, ils ont voulu complètement boucher En Lachem Chelek Beloke Israël. Vous n'avez plus de part dans la vie d'Israël, vous n'avez plus de part dans la Torah. C'est fini, on nous a déconnectés. Ils ont voulu nous déconnecter de ce qu'on est dans la Torah. Maintenant, on commence à réfléchir comme nous. Et ils ont presque gagné. Mais il y a des Kohanim Gdolim qui ont lutté et qui ont dit non, on ne va pas laisser faire. Parce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Torah que ce qu'il y avait à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y restait très très peu de gens qui tenaient le coup contre la philosophie grecque. Aujourd'hui, de toute façon, tout le monde s'en fiche de la philosophie et de Torah. Mais ça veut dire que, allez, aujourd'hui, le problème, c'est l'indifférence. C'est pas deux débats en deux formats. Les gens, ils sont plus intéressés par la format de toute façon. Mais à l'époque, les gens, ils étaient attirés par ça. Et ils voulaient absolument. Ils ont réussi à conquérir le monde. Ça a conquis les gens, les juifs aussi. Les Kohanim Gdolim, ils ont lutté. Les Kohanim, c'est eux qui auraient dû utiliser la Torah. Mais c'est un autre sujet. Mais ça veut dire que. Et ils ont dit non, on va trouver. Et la première chose, ils ont trouvé un parchemin Torah. C'est ça, c'est le Siman qui reste quelque chose. Il reste une trace, il reste une foi. Ils ont tout de suite allumé la menorah. Il y a eu un Nes. Nes pour montrer. En réalité, la menorah, elle continue à éclairer. Et ils ont été métaken, la mitzvah de Ner Hanouka, par rapport à ce miracle-là. Ça veut dire qu'il reste une petite lumière dans l'obscurité, mais il y a beaucoup plus d'obscurité que lumière, en réalité. Si seulement on avait autant de lumière que l'obscurité, on serait content. En réalité, il y a beaucoup plus. Yavan, c'est trop cher. J'ai ramené à la fin. C'est Rabbi Shimon ben Lakish, il dit « Arrête, ça est à Tohu, Bavohu, mais trop cher, Alpeneter. » Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est Paras ou Nadal. Et Rocher, c'est la grecque. Et Théom, c'est Romi, parce que c'est une caloute qui dure pour toujours et c'est le vide total, c'est le vide abyssal. Mais Rocher, c'est la grecque. Pourquoi? Parce qu'ils chirouettent en Israël. Ils ont assombri les juifs. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont voulu assombrir, c'est-à-dire éteindre, c'est quoi la lumière? Éteindre la lumière, ça veut dire éteindre cette Torah-là, cette lumière de la Torah. Je vous donne un machal pour essayer de comprendre un peu, ça veut dire quoi que la Torah, ça illumine? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, c'est lumière? Kiner, Mizav et Torah, ouais, c'est ça, la Torah, c'est lumière. On va donner un machal, moi, qui m'a beaucoup marqué quand Moshe Shapira il l'a dit. C'est comme ça. Imaginez quelqu'un est dans une pièce. Il fait noir. Et il ne connaît pas du tout, ni comment. Il y a beaucoup de choses dans cette pièce, mais il ne sait pas ce qu'il y a. Et il ne sait pas comment on la traverse sans se faire mal. Alors comment il va faire? Et ça restera noir tout le temps. Donc il va marcher au début, il va se cogner contre un meuble. Ah, bon, là, il y a un meuble. Bon, il fait attention. Après, il se cogne contre une chaise. Ah, là, il y a une chaise. On la déplace. Après, il arrive, boum, il y a le mur. Ah, zut, ici, il y a le mur. Donc il repart de l'autre côté. Et il tâtonne. C'est pas par là. Non, c'est encore par là. Ah ouais. Mais à la fin, il sait comment se déplacer dans la pièce, mais il sait pas exactement ce qu'il y a dans la pièce. Peut-être qu'il y a beaucoup plus grand que ce que tu crois, et peut-être qu'il y a des objets que t'as pas vu, que l'as vu, et peut-être que tu sais rien de cette pièce. Tu sais juste par où tu dois passer. Ça s'appelle le crochet. Dans l'obscurité, vous pouvez avoir accès à des informations, vous pouvez savoir comment vous repérer, et vous pouvez, dans certains détails, les connaître, en touchant, en sentant, prenant le temps de réfléchir, mais jamais vous aurez une information claire de ce qu'il y a. Mais imaginez quelqu'un, le même personnage qui rentre dans la pièce, elle est déjà éclairée. Elle est déjà éclairée, cette pièce. Il voit tout. Tout est dévoilé devant lui. Il n'a pas de question. C'est exactement tout ce qu'il y a sans aucun problème. En réalité, quand on parle de la lumière, ça veut dire c'est les choses dévoilées, c'est les choses qui sont claires. Les choses comme elles sont. Et l'obscurité, ça veut dire que même si j'ai accès à quelque chose, finalement, c'est des informations qui sont que partielles et qui sont dues à un tâtonnement et qui sont dues à une multitude d'erreurs successives jusqu'à que j'arrive un petit peu à avoir un minimum d'informations. Quand la Torah, c'est de la lumière, c'est-à-dire que la Torah, elle vous donne la réalité des choses d'une manière que vous ne pourrez pas l'avoir sans. Sans, vous allez tâtonner, vous allez arriver à comprendre quelques trucs, mais finalement, en fait, c'est le philosophe grec, comme dit Ramban, c'est un gazdat, c'est un prétentieux, il croit qu'il a tout compris. Mais en réalité, t'as tâtonné, c'est dans ton cher, tu tâtonnes, et dans ton cerveau, tu retrouves les choses que tu cherches, comme quelqu'un dans la pièce obscure. La Torah, c'est la menorah, c'est-à-dire que c'est elle qui apporte la lumière. Celui qui est caché à la Torah, qui traverse la Torah par le Ramban, évidemment, c'est pas donné comme ça. Mais ça veut dire, les paroles des Chachamim, elles sont éclairantes. Ça veut dire qu'elles contiennent en eux un sens qui éclaire tout le sujet. C'est pas des informations partielles, c'est pas des détails. C'est toujours des yesodot qui éclairent tout. Comme le Rambam, il écrit à la fin de Shmonim Prakim, au milieu de Shmonim Prakim, il développe beaucoup le inyan de c'est quoi Kolma Asifai Yishem Shamayim. Et à la fin, il dit un machin extraordinaire. Il dit que Chazal, donc il développe pas mal. Mais à la fin, il dit sache que Chazal, avec leur Chokhma extraordinaire, ils ont concentré tout ce que je te dis dans cette phrase. Veyou Kolma Asifai Yishem Shamayim. En réalité, c'est pareil. Pour beaucoup de choses. Quand Chazal, ils disent Kol HaKohes, etc., ils te donnent une phrase sur le Kaas, et après, vous avez aujourd'hui, comme il a dit avant toi, vous avez des centaines de livres qui sont écrits sur la colère. Pardon. Et si tu comprends bien ce qu'ils t'ont dit, tu pourras retrouver qu'en vérité, le sens fondamental des choses, il était déjà écrit dans cette phrase. Après, c'est que du développement. C'est-à-dire qu'en vérité, la lumière de la Torah, ça veut dire, dans ce sens-là, ça veut dire que le sens, l'éclairage qu'il y a sur les choses, il est contenu dans la Torah, il est contenu dans la parole des femmes. Et quelqu'un qui accède à la Chokhma pas par la Torah, il est dans le trop cher. Ce qu'ils ont fait, regardez, il y a une mara très, très intéressante là dans ce sens-là. C'est une mara dans Brachot, Tania. Rabbi Yaman Betera, on va dire au maire, Rabbi Tania, il disait, En Jivre Torah, Mekablim Touma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas la Torah. Vous avez compris, les paroles de la Torah, ça veut dire que tant qu'il y a le parchemène, celui qui a redonné la lumière de la Torah, lui, il est resté Torah. Pas ça qu'il dit ici, mais c'est, on comprend le lien qu'il y a avec ce parle. Bah, c'est Betalmid Echad, il y avait une histoire avec un élève, Shalem Gamgel. Gamgel, les malam et Rabbi Betera. Il n'arrivait pas, il parlait, ça ne sortait pas. Marley, béni, mon fils, tapira, ouvre la bouche. Ta bouche. Veyahirou, que tes paroles éclairent. Je t'ai indiré par un mécanisme. Que tes paroles éclairent. C'est-à-dire, éclaire-nous de tes paroles. Quelqu'un qui parle des paroles de Torah, et qui les, après les avoir intégrées, sa parole, elle éclaire le sens des choses. C'est pas une parole de tâtonnement. C'est pas une parole qui est vient de ce que moi j'ai compris ou ce que j'ai pas compris. C'est une parole qui vient de la révélation. Donc ça veut dire qu'en vérité, on est encore des bien évidibles. C'est-à-dire qu'en vérité, par l'étude de la Torah, on peut continuer à appartenir à la révélation. Et par la Chokhma, on peut retrouver la lumière de la révélation. Et ça on a gardé. Et ça, ils ont gagné. Ils ont gardé un air katan. Et nous, les Zikaron de Sénès-là, mais en vérité, c'est pas qu'un Zikaron. Nous, on continue à reproduire ce miracle-là, on continue à l'affirmer en allumant le Ner Hanouka à l'extérieur principalement, dans le sens, C'est la, on allume une fois. C'est rare les mitzvot qui passent la nuit d'abord et c'est rare les mitzvot qui passent à l'extérieur. Mais les deux ensemble, ça ne peut pas avoir bien faire ça. On l'allume dans le Reshut HaRabim, dans le Ikar Hadin de la Morale. Non, on l'allume dans le Reshut HaRabim dans la rue et on l'allume en pleine, on l'allume la nuit. Ça veut dire, on dit, on veut affirmer par là le Pirsumanes, c'est-à-dire on veut répandre le Nes. En fait, on veut affirmer par là que la lumière, elle est encore là et qu'on l'a, et qu'elle va être répandue un jour et qu'elle est encore là et qu'on la met à l'extérieur dans le prochain pour dire, ce rocher là, eh ben, on a encore une lumière à l'intérieur. Si tu mets dans la maison, ça n'a pas tellement. Ça ne va pas de la femme. Donc, c'est pour ça que Khazal, ils ont demandé qu'on mette à l'extérieur pendant la nuit. Parce qu'on veut montrer qu'on est encore attaché à cette lumière et elle peut encore éclairer à l'extérieur. Comme la menorah qui est l'extérieur du Kodesh et Kodesh, on met à l'extérieur de la maison. Mais pas à l'intérieur. On n'a pas perdu cette chose-là. On dira notre lumière un jour, elle éclairera le monde. Mais pour l'instant, c'est une petite lumière. Mais un jour, quand un Kojbourg va se dévoiler, alors ça sera hors Gadol. Et les gens, ils vont tout de suite. Et quand un Kojbourg va se dévoiler, l'éclairage, au moment de la Géoula, il sera immédiat. Les gens, ils vont voir. Il n'y aura plus de doute. Ils vont voir. Ils vont dire, voilà. Ils rentrent dans la pièce, c'est déjà éclairé. Voilà.